fait. Vous comprenez bien qu'un homme qui parle comme ça, il est libre.
Très dangereux. Il ne faut pas le laisser parler comme ça.
À l'époque où l'armée des Chaldéens dut lever le siège de Jérusalem devant celle de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller au pays de Benjamin faire un partage chez les siens. Quand il arriva à la porte de Benjamin, où un nommé Yeriya, fils de Shelemia, fils de Hanania, se trouvait en faction, ce dernier arrêta le prophète Jérémie en criant « Tu passes aux Chaldéens, tu es un traître, tu t'en vas, tu quittes la ville, tu vas passer aux Chaldéens. » Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais sans écouter Jérémie, Yeriya l'arrêta et le conduisit au dignitaire. Ceux-ci, furieux contre Jérémie, le frappèrent et le mirent au cachot, au domicile de Yéronathan, le secrétaire, qu'on avait transformé en prison. Et c'est cet endroit que, selon une tradition, on dit être l'endroit où Jésus a passé la nuit d'outrage, là, c'est-à-dire en dessous du palais de Caïphe, vers le mont Sion. On montre une cave où l'on dit que Jérémie a passé la nuit là-bas. En fait, je ne crois pas qu'on puisse prouver cela, mais Jérémie est la figure de Jésus. Et c'est cela que l'on veut dire. Cette tradition-là est réelle. La tradition archéologique, là, c'est beaucoup moins sûr. Ainsi, Jérémie fut mis dans un souterrain voûté. Et il y resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher. Et secrètement, dans son palais, le roi lui demanda « Y a-t-il une parole du Seigneur ?» Jérémie répondit « Certes. » Et il ajouta « Entre les mains du roi de Babylone, tu seras livré. » C'est pas évidemment ce que l'autre attendait, hein. Puis Jérémie dit au roi Sédécias, « Quelle faute ai-je commise envers toi, envers tes serviteurs, ou envers ce peuple que vous m'ayez mis en prison ? Où donc sont vos prophètes qui vous annonçaient, « Il ne viendra pas contre vous le roi de Babylone, ni contre ce pays. » Maintenant, mon Seigneur le roi, daigne écouter, que ma requête puisse te toucher. Ne me fais pas reconduire chez le secrétaire Yéronathan, de peur que je n'y trouve la mort. Alors le roi Sédécias donna un ordre. On interna Jérémie dans la cour de garde. Hein, voilà, maintenant on vous raconte pourquoi il était interné dans la cour de garde. Et on lui remit chaque jour une galette de pain venant de la rue des Boulangers jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de pain dans la ville. Ainsi, Jérémie resta dans la cour de garde. Et voilà que sa détention préventive devient une détention continue. Mais ça ne va pas suffire. Il ne se tait pas, nous l'avons vu, même dans la cour de garde. Et on voudrait bien qu'il se taise. Mais Shephatia, fils de Matan, Gedaliahou, fils de Pashour, nous l'avons déjà vu celui-là, hein? Yukal, fils de Shelemia, et Pashour lui-même, fils de Malkiya, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le monde, dans le corps de garde. Il se mettait à la fenêtre et criait, comme les prisonniers aujourd'hui.
Hein? Il est encore plus près du roi, donc les notables entendent encore mieux.
Évidemment. Ainsi parle le Seigneur. Qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste. Mais qui sortira et se rendra aux Chaldéens vivra, sa vie sera son butin, il vivra. Question de savoir si vous préférez la vie ou la mort. Ainsi parle, c'est toujours ce schéma qui vient. Choisis la vie. Ainsi parle le Seigneur, pour sûr,
Cette ville sera livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone qui s'en emparera. C'est ça, c'est pour montrer que Dieu n'intervient pas dans les réalités extérieures. Il ne va pas aller tuer le roi de Babylone si le roi n'a pas un cancer. Hein. Comprenez, Dieu n'intervient pas dans les réalités, il intervient dans les rapports profonds de l'homme. Mais nous nous transposons souvent et nous voudrions bien qu'il intervienne dans les réalités extérieures. Mais Dieu ne peut pas intervenir dans ces réalités extérieures. Sinon il va brimer tout le temps les libertés des uns ou des autres. Donc son respect de l'homme va jusque-là. Nous voudrions parfois qu'il nous respecte un peu moins. Hein? Alors ses chefs dirent au roi, que cet individu soit mis à mort. En vérité, il décourage les combattants qui sont restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant semblables propos. Il fait que tout le monde démissionne finalement. Oui, cet individu ne cherche nullement le bonheur de ce peuple, mais son malheur. Le malheur étant considéré comme le fait d'être soumis à Babylone. Le roi Sédécias répondit,
voici,
il est entre vos mains, car le roi n'a aucun pouvoir en face de vous. Le roi règne, mais ne gouverne pas. Hein. Il n'a aucun pouvoir en face de vous. C'est vous qui avez le pouvoir exécutif. Ils se saisirent donc de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Malki-Yahou, située dans la cour de garde. Une citerne qu'on n'utilise plus, pleine de boue. Voilà. Ils le descendirent à l'aide de cordes, donc c'est assez profond. Dans cette citerne, il n'y avait point d'eau, mais de la vase, et Jérémie s'enfonça dans la vase. Vous voyez que c'est l'image de Joseph. Hein? Joseph vendu par ses frères, qu'on jette dans une citerne où il n'y avait pas d'eau. On ne dit pas qu'il y avait de la vase dans l'autre.
Ici, oui.
Et vous avez souvent, dans les lettrines, encore ceci,
c'est Jérémie,
dans les manuscrits de Jérémie, on voit une lettrine où Jérémie est descendu dans le puits, dans la citerne. Oh, le Cushite. Le Cushite, hein, c'est un Éthiopien. Il y avait pas mal d'Éthiopiens qui étaient des mercenaires, parfois des esclaves, mais qui avaient parfois été affranchis aussi. Le Cushite, Evet Melech, Evet, c'est le serviteur Melech du roi, serviteur du roi, un eunuque attaché au palais royal, après qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. C'est triste parce que probablement, hein, il a entendu parler de Jérémie et il l'aime bien. Comme le roi s'était arrêté à la porte de Benjamin, Evet-Melech sortit du palais royal et s'adressa au roi. Monseigneur le roi, ils ont mal agi ces gens-là, en traitant de la sorte le prophète Jérémie. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va mourir sur place. Alors le roi donna cet ordre au Cushite Evet-Melech. Prends ici trois hommes avec toi et remonte de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Evet-Melech prit ses hommes avec lui, entra au palais royal, au vestiaire du trésor, il s'y procura des bouts de tissu déchirés ou usés, qu'il fit passer à Jérémie dans la citerne au moyen de cordes. Evet-Melech le Cushite dit à Jérémie, « Mets donc ces bouts de tissu déchirés et usés sous tes aisselles, par-dessous les cordes. » Ce que fit Jérémie, alors ils soulevèrent Jérémie au moyen des cordes et le remontèrent de la citerne. Et Jérémie resta dans la tour de garde, dans la cour de garde. Ça aussi c'est symbolique, c'est une réalité. Il est mis dans la citerne et on le tire. C'est aussi une expression du salut. Il ne meurt pas, il échappe à la mort à ce moment-là. C'est pas encore son moment. On
va arrêter là parce que si je reprends la suite, ce sera un peu trop long.
Comme quoi il suffit d'un pour changer.
Mais un qui va trouver le roi.
Et le roi change d'avis.
Pardon ?
Et le roi change d'avis.
Et le roi change d'avis. Ce qui veut dire que il croit en la réalité de l'homme malgré tout. Et vous voyez, je fais souvent un rapport avec...
Pensez à Hérode avec Jean-Baptiste.
Oui. Oui, mais la situation est un peu différente. Il le garde en prison, Jean-Baptiste, mais...
Il aimait les prisons.
Mais le père Choufani, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Il est capable d'aller trouver Sharon et il est capable de trouver Arafat. Il est contre la politique de Sharon et il est contre la politique d'Arafat. Mais il n'est pas contre les hommes. Il peut parler. Et pour ça, il faut être libre. Hein, parce qu'il faut risquer.
C'est ça qui est difficile, parce que spontanément, on identifie l'homme à son agir.
Faisons toujours comme ça. Faisons toujours.
En bien comme un mal,
tout à fait. Donc justement, il faut pouvoir relativiser l'agir de l'homme et le juger, mais en même temps, découvrir. Parce que ce qu'il dit toujours, Choufani, c'est que l'homme est image de Dieu. Tout homme est image de Dieu. Donc je ne peux pas le condamner comme homme. Mais je peux condamner sa politique, hein. C'est difficile pour nous. Voilà. Si Dieu n'agit pas dans sa création à l'extérieur, c'est vrai que nous ne connaissons pas toutes les lois. Hein. Et j'ai vu avec bonheur que le petit livre de Lucien Morel a été réédité. Dieu est libre et lié. Si vous trouvez ce petit livre, lisez-le, ça vaut la peine. C'est Lucien Morel, professeur, ancien professeur bien sûr, à l'université de Louvain, qui a vécu dans un milieu, quoi ? M-O-2-R-E-N, Morel. Et donc,
Dieu est libre et lié.
Dieu est libre et lié. Dieu est libre et lié. Et donc il montre que la véritable liberté, c'est l'acceptation des contraintes. Et que Dieu est libre, mais à l'intérieur d'un monde qu'il a créé et dans lequel il ne peut pas tout le temps intervenir. S'il intervenait tout le temps, il n'y aurait pas moyen de nous conduire. Il n'y aurait plus de loi fixe.
Mais c'était dicté chez qui ?
Pardon ?
C'était dicté où ? Parce qu'en
France, je ne sais pas. J'ai vu que j'ai vu, je ne sais plus où, dans une revue, que c'était réédité. Mais je ne sais pas. Mais actuellement, avec les ordinateurs, dès que vous avez et l'auteur et un morceau du titre, on vous trouvera très facilement. Il n'y a rien à faire. Mais je n'ai pas vu où c'était réédité. Mais j'ai été heureux de le voir. C'était dans une revue et je ne sais même plus laquelle. Mais donc... il parle au fond du miracle. Lui qui était, je crois qu'il était physicien, je crois que c'est dans cet ordre-là. Et il s'est toujours posé la question, comme il venait d'un milieu incroyant, il s'est toujours posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu fait avec le monde qu'il a construit. Et justement, Dieu n'intervient pas dans l'extérieur des choses, mais tout de même avec ce bémol, c'est que nous ne connaissons pas toutes les lois. Il y a des choses, par exemple, des guérisons qui se produisent beaucoup plus rapidement que suivant le processus habituel. Et donc lui-même, il connaissait bien aussi la médecine et les médecins, il s'occupait beaucoup de groupes de médecins, et s'en est bien rendu compte. Dieu est libre et lié, et donc... Dieu, qui a mis un monde en marche, qui doit se faire lui-même, se construire lui-même. C'est pas Dieu qui fabrique de l'extérieur. Nous devons bien dire comme cela, mais l'idée du potier est très belle. Parce qu'il faut, comme nous l'avons vu, à la fois que l'argile et le potier se rencontrent. Et donc, quel est le sens de la prière ? Je voudrais bien que mon père guérisse. Et extérieurement, et concrètement, et historiquement, il ne guérira pas. Mais je continue de le dire. Quel est le bénéfice de pareille prière ? Si je m'énerve parce que je ne vois aucun signe de guérison, je ne suis pas encore dans la prière. Si petit à petit, je me pacifie, et si j'accepte éventuellement qu'il meure, maintenant ou plus tard, la prière est bénéfique. La prière agit d'abord sur le priant. La prière est d'abord une ouverture du priant. Je dis mes désirs à Dieu, et puis je les lui laisse. Je ne t'essaie pas de les récupérer en disant « Et maintenant, tu vas faire ce que je te demande, parce qu'alors, je perds tout le bénéfice de la prière. » Mais j'ai besoin de le dire que c'est ça que je désire. C'est très bon que je le dise. Vous avez un passage...
Il y a le peut-être.
Peut-être. Oulai. Et laissez la liberté à Dieu. Mais j'aime beaucoup le petit verset de Saint Marc. Hein, lorsque vous vous trouvez dans la prière, hein, que vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Bizarre, hein ? Curieuse manière de s'exprimer. Croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est-à-dire confiez tout au Seigneur. Et vous l'avez déjà reçu, vous avez reçu cette tranquillité, cette paix de savoir que ce que vous demandez est entre les mains du Seigneur. Sinon, vous récupérez la demande. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que nous nous accrochons, hein, à notre désir concret au lieu de nous laisser ouvrir à l'attitude qui est demandée dans la prière. Et Jésus dit aussi dans l'évangile de Matthieu que le Seigneur sait bien ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Alors à quoi bon le demander ? Parce que nous sommes des enfants bien-aimés. C'est simplement ça, c'est un signe d'affection de demander ce qu'on voudrait. Un enfant demande quelque chose à sa maman dit non, tu n'auras pas ça maintenant. Mais elle a accueilli, j'espère, le désir. Et ce qui est important pour l'enfant, c'est que son désir soit accueilli. Et quand il a le morceau de chocolat ou le jouet qu'il voulait, ben il va en demander un autre. Hein. Donc c'est que son désir perdure, c'est bien. Hein. Mais ce n'est pas le chocolat qui est important, c'est l'amour que le chocolat signifie. Vous voyez, comme nous matérialisons les choses alors qu'elles sont intérieures. Voilà. Ça, c'est pour la prière. Alors, quand Jérémie va se plaindre devant Dieu, Dieu dit, ah, j'ai entendu, retourne. J'ai entendu, retourne. Donc, avec ta plainte et avec ton mal, je te renvoie. Je te renvoie, continue. Et tout le bénéfice de la prière est gagné. Même s'il y a une révolte, voilà, la révolte fait partie de la prière. Longue expérience. Je continue au chapitre 38. Il y a des choses où je vais passer un peu plus rapidement, parce que, à cause des répétitions. Mais même quand il y a des répétitions, il y a des points qui sont importants parce qu'ils ajoutent des choses neuves. Le roi Sédécias, donc chapitre 38, verset 14, le roi Sédécias fit mander auprès de lui le prophète Jérémie. Vous voyez, on dirait qu'il a tout le temps besoin de lui. Il lui dit, ne parle plus. Il le met au cachot Et en même temps, il en a besoin. Il va le chercher. C'est comme Hérode avec Jean-Baptiste. Et donc, fit mandé près de lui, Jérémie, à la troisième entrée du temple du Seigneur, le roi dit à Jérémie, « Je veux te réclamer une parole. » Il veut aussi sa sécurité. « Ne me la scelle pas, ne me la cache pas. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te l'annonce, tu me feras mourir, n'est-ce pas? Et si je te conseille, tu ne m'écouteras pas. »
Il n'y a pas Jésus qui a quelque chose comme ça aussi dans
le... Oui, c'est à son procès, hein, si je vous dis quelque chose. Alors le roi Sédécias fit en secret ce serment à Jérémie. En secret, on voit bien qu'il veut cacher aux autres les rapports plus intimes qu'il a avec Jérémie. Et c'est beau, hein, ça. Par le Seigneur vivant, c'est le serment, hein, qui nous a donné cette vie, je ne te ferai pas mourir. Comme Hérode pour Jean-Baptiste, il ne voulait pas le faire mourir, mais il a été trop loin dans sa parole. Et je ne te livrerai pas aux mains de ces gens qui en veulent ta vie. Jérémie dit donc à Sédécias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu sors pour te rendre aux officiers du roi de Babylone, tu sauveras ta vie et cette ville ne sera pas incendiée. Vous survivrez, toi et ta famille. Mais si tu ne sors pas pour te rendre aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux mains des Chaldéens, qui l'incendieront. C'est la logique des hommes, ça. Quant à toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Et nous allons voir un peu plus loin, hein, la fin, la triste fin de Sédécias. Alors le roi Sédécias dit à Jérémie, « J'ai peur des Judéens qui ont passé aux Chaldéens. J'ai peur de ceux qui sont déjà transfuges. On pourrait m'abandonner à leur pouvoir et ils me maltraiteraient. » Et Jérémie répondit, « On ne te fera pas cela. Écoute donc la voix du Seigneur, selon laquelle je t'ai parlé. Alors tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, vois ce que le Seigneur m'a montré. Voici toutes les femmes qui demeurent encore au palais du roi de Juda sont menées aux officiers du roi de Babylone. Et elles chantent, ils t'ont séduit, ils t'ont dupé, tes bons amis. Tes pieds pataugent dans le bourbier, eux sont partis. » On a essayé de rendre un peu, hein, des verbes, des assonances en tout cas. « Oui, toutes tes femmes et tes enfants, on les mènera aux Chaldéens. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains, mais tu seras prisonnier dans la poigne du roi de Babylone. Quant à cette ville, elle sera incendiée. » Sédécias dit à Jérémie que nul n'ait connaissance de ses paroles, sinon tu mourrais. Si les dignitaires apprennent mon entretien avec toi et viennent te dire « Fais-nous connaître ce que tu as dit au roi et ce que t'a dit le roi. Ne nous cache rien, sinon nous te ferons mourir. » Tu leur répondras « Je présenterai cette requête devant le roi, qu'il ne me renvoie pas chez Jéhonatan pour y mourir. » C'est-à-dire, hein, dans le corps de garde, hein, dans le cachot qu'on avait aménagé, hein, rapidement, pour punir justement les transfuges, les traîtres, ceux qu'on prenait pour tels. Tous les dignitaires vinrent en effet trouver Jérémie et l'interroger. Il les renseigna exactement comme le roi avait recommandé. Ils le laissèrent donc tranquille, car rien n'avait transpiré de l'entretien. Et Jérémie resta dans la cour de garde jusqu'au jour où Jérusalem fut prise. On ne dit pas combien de temps. Et qu'est-ce qui se passe au moment précisément où Jérusalem est prise? Or, quand Jérusalem fut prise, la neuvième année de Sédécias, roi de Juda, le dixième mois, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. On en fit le siège, la onzième année de Sédécias, au quatrième mois, le neuf du mois, le 9 de Av, hein, qui est un jour de jeûne à cause de la chute du temple de Jérusalem. Une brèche fut pratiquée dans la ville, brèche dans les remparts. Tous les officiers du roi de Babylone ayant fait leur entrée, établirent leur quartier à la porte du milieu. Et alors, on vous donne tous les noms. Hein. Nergal, c'est un dieu. Hein. Nergal Sarécer, prince de Sin-Magir, le grand officier Nebuchadnezzar, le haut dignitaire, et tous les autres officiers du roi de Babylone. Et on vous passe les noms qui ne sont pas faciles à prononcer. Voyant cela, Sédécias, roi de Juda, et tous les guerriers s'enfuirent de nuit et sortirent de la ville vers le jardin du roi par la porte entre les deux murs. Probablement un petit souterrain qui passait, comme le souterrain du temps des Maccabées, le tunnel à côté du temple. Ils prirent le chemin de la Arava, c'est le sud, c'est le Negev. Mais les troupes chaldéennes les poursuivirent et atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho. L'ayant fait prisonnier, on l'emmena à Rivla, au pays de Hamath, auprès de Nabucodonosor, roi de Babylone, qui le fit passer en jugement. Le roi de Babylone fit égorger à Rivla les fils de Sédécias sous ses yeux. De même, le roi de Babylone fit égorger tous les notables de Juda. Puis il creva les yeux de Sédécias et le mit au fer pour l'emmener à Babylone. Et ce texte, à peu près tel quel, qui est tiré du deuxième livre des rois, vous allez le retrouver tout à la fin du livre, qui est mis en appendice. Les Chaldéens incendièrent le palais royal et les maisons des particuliers. Ils abattirent les remparts de Jérusalem. Nebuzardan, commandant de la garde, déporta à Babylone le reste de la population laissée dans la ville. C'est la deuxième déportation. Les transfuges qui s'étaient rendus à lui et ceux qui restaient des artisans. Au contraire, Nebuzardan, commandant de la garde, laissa au pays de Juda une partie du petit peuple qui ne possédait rien. Ils ne sont pas dangereux, ceux-là. En même temps, il leur distribua des vignes et des champs. Puisqu'on a tout abandonné, au moins que ceux-là travaillent la terre. Au sujet de Jérémie, Nabucodonosor, roi de Babylone, avait donné cet ordre à Nebuzardan, commandant de la garde. Prends-le, aie-le sur lui, ne lui fais aucun mal, mais traite-le comme il le demandera. Alors Nebuzardan, commandant de la garde, Nebuchadnezzar, le haut dignitaire, Nergal-Sarézer, le grand officier, et tous les officiers du roi de Babylone envoyèrent des gens. Et ils envoyèrent des gens pour tirer Jérémie de la cour de garde. Ils lui donnèrent liberté d'aller et venir. C'est ainsi qu'il demeura parmi le peuple. Et on a ajouté là, un peu comme à la fin du livre des rois, « Tandis que Jérémie était enfermé dans la cour de garde, la parole du Seigneur lui avait été adressée en ces termes. « Va-t'en dire au Cushite Evet Melech, nous avons déjà rencontré, qu'il avait tiré de la citerne, ainsi parle le Seigneur des armées et le Dieu d'Israël, voici je vais accomplir contre cette ville mes paroles, chargées de malheur, non de bonheur. Quand elles se réaliseront sous tes yeux, tel jour, je te sauverai ce jour-là, oracle du Seigneur, et tu ne seras pas livré aux mains des gens qui te font trembler. Mais assurément je te ferai échapper, tu ne tomberas pas sous l'épée, ta vie sauve sera ton butin, car en moi tu as mis ta confiance, oracle du Seigneur. Et puis nous avons encore, sur ce qui s'est passé à la fin de la vie de Jérémie, un certain nombre de chapitres. Vous avez d'abord, on parle d'abord du sort de Jérémie, qui ne fait que répéter les choses. On met seulement dans la bouche des gens de Babylone ce qui a été dit par Jérémie pour dire, voyez, ils sont d'accord, autrement dit, c'est Dieu qui mène l'histoire. Et puis, on montre comment Nabucodonosor n'administre pas lui-même, ou par ses gens, par les Babyloniens, n'administre pas lui-même le pays, mais il met un gouverneur. Le fameux gouverneur qui s'appelle Godolias. Gadol Ya, c'est-à-dire Dieu est grand. Allahu Akbar. Je suis donc au chapitre 40, verset 7, donc j'ai sauté un peu le reste. tous les officiers de l'armée qui, avec leurs hommes, tenaient encore la campagne, apprirent que le roi de Babylone avait institué Godolias, fils d'Achikam, comme gouverneur du pays, et lui avait confié hommes, femmes et enfants, et une partie du petit peuple du pays, ce qu'on appelle le Am Haaretz, le peuple du pays, c'est-à-dire les petites gens, qui n'avaient pas été déportés à Babylone. Il va auprès de Godolias à Mitzpah, donc au nord du pays, Yishmael, fils de Netanyahu, Yohanan, fils de Karea, Seraya, fils de Tanchumet, les fils de Ephraï, le Netophite de Netoufa, de la plaine de Netoufa, Yizaniahou, fils de Ma'akatit, eux et leurs hommes, Godolias, fils d'Akikam, fils de Shaphan, leur fils serment à eux et à leurs hommes, ne redoutez pas d'être soumis aux Chaldéens. Restez au pays, soyez soumis au roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Il dit la même chose que Jérémie. Pour moi, voici, je m'établis à Mitzpah comme responsable en face des Chaldéens qui viennent chez nous. Mais vous, faites la récolte du vin, des fruits et de l'huile, remplissez vos jars, installez-vous en vos villes que vous devez réoccuper. Et alors, pareillement, tous les Judéens qui se trouvaient, qui s'étaient déjà sauvés à Moab ou bien à Ammon ou bien à Edom, dans tous les autres pays, ils reviennent. Tous ces Judéens, verset 12, revinrent donc de tous les lieux où ils s'étaient dispersés, rentrés au pays de Juda, près de Godolias à Mitzpah. Ils firent une récolte fort abondante de vin et de fruits. Dit, en d'autres termes, la vie continue. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont morts, la ville est détruite, mais il ne faut pas arrêter pour cela. La vie continue. Malheureusement, Godolias, qui se trouvait être une créature des Babyloniens, va être poursuivi par ce qui reste des parties des égyptophiles. Il va le payer de sa personne aussi. Je suis au chapitre 41. Au septième mois, Yishmael, fils de Netanya, si vous voulez ouvrir un peu plus, vous pouvez, je crois qu'il fait chaud. Je pense pas qu'il est... Au septième mois, Yishmael, fils de Netanya, fils d'Elishama, qui était de souche royale, vint avec 10 hommes trouver Godolias, fils d'Achikam, à Mitzpah. Et tandis qu'ils prenaient ensemble leur repas, là, à Mitzpah, Yishmael, fils de Netanya, se lava avec ses 10 hommes et ils frappèrent de l'épée Godolias, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Ainsi fit-il mourir celui que le roi de Babylone avait préposé au pays. De même, tous les Judéens qui étaient avec lui au festin et les Chaldéens qui se trouvaient là, c'étaient des hommes de guerre, Ishmaël les tua. Et puis, je passe le reste et j'arrive tout de suite au chapitre 42. C'est ce qu'on dit maintenant de la fuite en Égypte. Donc vous voyez que le combat entre les égyptophiles et les babylonophiles continue. On ne sait pas ce qui est le mieux. Si vous voulez avoir la vie sauve, allez en exil. Enfin, c'est en exil. Si vous voulez être tué, vous avez des chances de l'être si vous restez dans le pays. À moins que vous ne soyez des gens de rien. Si vous n'avez rien du tout, on vous laissera tranquille. Alors tous les officiers, notamment Yohanan, fils de Kareab, et Azaria, fils de Hoshaya, ainsi que tout le peuple, petits et grands, vinrent dire au prophète Jérémie, voilà qui reparaît, que notre requête retienne ton attention. Intercède auprès du Seigneur ton Dieu en faveur de tout ce reste, car nous sommes restés bien peu du nombre que nous étions, comme tu le vois de tes propres yeux, pour que le Seigneur ton Dieu nous indique quelle voie nous devons suivre, quelle chose nous devons faire. Ils ont perdu donc tout leur repère. Alors, ils ont demandé conseil. Jérémie, le prophète, leur répondit, j'entends. Je vais prier. Yahvé, votre Dieu, tiens, votre Dieu, selon votre demande, et toute parole que le Seigneur, votre Dieu, répondra, je vous la ferai savoir, sans rien vous en cacher. De leur côté, ils dirent à Jérémie, que le Seigneur soit témoin contre nous, fidèle et véridique, si nous n'agissons pas exactement selon la parole que le Seigneur ton Dieu t'aura envoyée pour nous. Que cela nous plaise ou non, nous obéirons à la voix du Seigneur, notre Dieu, près de qui nous te députons. Ainsi, nous serons heureux pour avoir obéi à la voix du Seigneur, notre Dieu. Au bout de 10 jours, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Alors, il convoqua Yohanan, fils de Caréa, et tous les officiers qui étaient auprès de lui, ainsi que tout le peuple, petits et grands. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez député pour lui présenter votre requête. Si vous voulez rester tranquillement dans ce pays, je vous bâtirai et ne vous démolirai plus. Je vous planterai et ne vous arracherai plus. » C'est toujours le vocabulaire que nous avons trouvé dès le début. « Car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne redoutez point le roi de Babylone qui vous fait peur. Ne le redoutez pas, oracle du Seigneur, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Ce que Jérémie a vécu lui-même, hein, il le transmet au peuple pour qu'il le vive. « Je vous ferai prendre en pitié, pour qu'il vous prenne en pitié et vous laisse revenir sur votre sol. Mais si vous dites, nous ne voulons pas rester dans ce pays, désobéissant ainsi à la voix du Seigneur votre Dieu, si vous dites, non, c'est au pays d'Égypte que nous voulons aller, là nous ne verrons plus la guerre, n'entendrons plus l'appel du cor et n'aurons plus de disette de pain, c'est là que nous voulons demeurer, eh bien, en ce cas, reste de Juda, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Si vous êtes résolu à aller en Égypte et que vous y entriez pour y séjourner, l'épée que vous redoutez, elle vous atteindra là, en terre d'Égypte. Il se doute bien qu'une fois que Nabucodonosor aura pris tout le pays, bah, il ira jusqu'en Égypte, hein, puisque c'est le grand ennemi. Et la famine qui vous inquiète, elle s'attachera à vos pas, là en Égypte. C'est là que vous mourrez. Et tous les hommes résolus à aller en Égypte pour y séjourner, ils mourront par l'épée, la famine, la peste. Pas un seul survivant n'échappera au malheur que je vais leur amener. Oui, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Comme se sont déversées ma colère et ma fureur sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur se déversera sur vous si vous vous rendez en Égypte. Vous serez en exécration, en stupéfaction, en malédiction et en dérision, et vous ne reverrez plus ces lieux. » Autrement dit, l'Égypte n'aime pas tellement avoir des immigrants, hein. Ce n'est pas le moment. Mais lorsque Jérémie eut achevé de dire, mais ici, dans mon édition, il mêle le chapitre 43 et le chapitre 42. Enfin, patience. Mais lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles du Seigneur leur Dieu, dont le Seigneur l'avait chargé pour eux, toutes les paroles rapportées, Azaria, fils de Hoshaïa, Yohanan, fils de Caréa, et tous ces hommes effrontés et rebelles, répondirent à Jérémie, « C'est un mensonge que tu débites. Le Seigneur ne t'a pas chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y séjourner. Mais c'est Baruch, fils de Neria, qui t'excite contre nous, pour nous livrer aux mains des Chaldéens, qui nous mettront à mort ou nous déporteront à Babylone. » Jérémie répondit, « Reste de Juda, c'est le Seigneur qui vous a déclaré, n'allez pas en Égypte. Sachez bien qu'aujourd'hui, je vous ai averti solennellement. Vous avez joué votre propre vie quand vous m'avez député vers le Seigneur votre Dieu en disant, intercède pour nous auprès du Seigneur notre Dieu, et tout ce qu'aura ordonné le Seigneur notre Dieu, annonce-le nous pour que nous l'exécutions. Et aujourd'hui, je vous l'ai annoncé, vous n'avez obéi à la voix du Seigneur votre Dieu en aucun point du message dont il m'a chargé pour vous. Alors, autrement dit, à quoi ça sert? Sachez donc bien que vous mourrez par l'épée, la famine et la peste au lieu où vous avez désiré vous rendre pour y séjourner. Mais Yochanan, fils de Caria, tous les officiers et tout le peuple n'obéirent pas à la voix du Seigneur en demeurant au pays de Juda. Yochanan, fils de Caria, et tous les chefs de l'armée emmenèrent tout le reste de Juda, ceux qui étaient revenus de chez tous les peuples où ils étaient dispersés, pour habiter au pays de Juda, hommes, femmes et enfants, ainsi que les princesses royales et toutes les personnes que Nebuzardan, commandant de la garde, avait laissées avec Godolias, fils d'Achikam, fils de Shaphan, notamment le prophète Jérémie et Baruch, fils de Neria. On se rendit donc en Égypte, puisqu'on n'écouta pas la voix du Seigneur, et l'on parvint à Tarpanès. C'est à l'est, c'est une petite ville, à l'est du delta du Nil. Or, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie à Tarpanès, en ces termes, « Prends de grandes pierres, et en présence des Judéens, enfouis-les dans du ciment sur la place carrée qui se trouve à l'entrée du palais de Pharaon à Tarpanès. Puis, dis à ces gens, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais envoyer chercher Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Il installera son trône sur ses pierres, que j'ai enfouies, et il déploiera sur elles son dais, sa tente. Il viendra et frappera le pays d'Égypte. » Effectivement, quelques années plus tard, Nabuchodonosor est arrivé en Égypte et a pris l'Égypte. Qui est pour la peste? Ah oui. Il viendra, frappera le pays d'Égypte. Qui est pour la peste? À la peste. Qui est pour la captivité? En captivité. Qui est pour l'épée? À l'épée. C'est une reprise du chapitre 15. Il mettra le feu au temple des dieux de l'Égypte, ce qu'il a fait. Il brûlera ses dieux ou les déportera. Il épouillera le pays d'Égypte comme le berger épouille son manteau. Puis, il en partira sans être inquiété. Et, comme le dit la note de la Bible de Jérusalem de mon édition, ce raid victorieux eut lieu en 568-67 sous le pharaon Amasis. Donc, tout ceci a bien sûr été écrit après coup. Enfin, la parole de Jérémie demeurait. Il brisera les obélisques du temple du soleil qui se trouve à On. C'est Héliopolis, hein, près du Caire, On. Et incendiera les temples des dieux de l'Égypte. Et alors, nous avons encore une finale sur le sort de Jérémie. Ce sont des morceaux qui se trouvaient dans les archives et qu'on a rapporté parce que c'était de la même époque. Parole qui fut adressée à Jérémie pour tous les Juifs installés au pays d'Égypte, en résidence à Migdol, c'est la tour, Tarpanès, Nof, et au pays de Patros. Le pays de Patros, c'est tout à fait le sud, la Haute-Égypte. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tout le malheur que j'ai amené sur Jérusalem et toutes les villes de Juda. Les voilà en ruine aujourd'hui et sans habitants. C'est à cause des méfaits, donc ça c'est la leçon que l'on a tirée de l'exil. C'est à cause des méfaits qu'ils ont commis pour mériter en allant encenser, servir des dieux étrangers qui n'avaient connu ni eux, ni vous, ni vos pères. Je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dire, ne faites pas cette abomination que j'ai. Mais ils n'ont point écouté ni tendu l'oreille pour revenir de leur perversité et ne plus encenser des dieux étrangers. Alors, Ma fureur et ma colère se sont déversées. Elles ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui furent réduites en ruines et en désert, comme c'est le cas aujourd'hui. Et maintenant, c'est le tournant de l'oracle. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Sabaoth, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous causez à vous-même tant de mal? Vous allez faire exterminer du sein de Juda hommes et femmes, enfants et nourrissons, sans qu'il vous subsiste un reste. Parce que vous mourrez irrité par l'œuvre de vos mains, en sensant des dieux étrangers sur cette terre d'Égypte où vous êtes venus séjourner, travaillant ainsi à votre extermination et devenant pour toutes les nations de la terre un sujet de malédiction et de raillerie. Autrement dit, vous voulez recommencer l'histoire de l'esclavage d'Égypte. Vous n'avez donc aucune mémoire historique. Il faut aller de l'avant et vivre autre chose. Autrefois, vous étiez en Égypte et vous avez été sauvé, gratuitement. Maintenant, vous allez aller en exil et vous allez être sauvé aussi gratuitement. Mais ne reprenez pas l'histoire avec ces mauvaises expériences. Avez-vous oublié les méfaits de vos pères, ceux des rois de Juda, ceux de leurs femmes, les vôtres et ceux de vos femmes, commis au pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils n'ont ressenti jusqu'à ce jour aucune contrition, aucune crainte, et n'ont point marché selon la loi et les prescriptions que j'avais promulguées devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais tourner ma face contre vous pour un malheur, pour exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda, qui a résolu de venir en terre d'Égypte pour y séjourner. Ils périront tous en terre d'Égypte, ils tomberont sous l'épée, ils périront de famine, petits et grands, par l'épée et la famine, ils mourront, et ils seront en exécration, en stupéfaction, en malédiction et en dérision. L'exécration, c'est une coutume habituelle des Égyptiens. Lorsqu'on partait en guerre, contre n'importe qui, on fabriquait des figurines qui représentaient le peuple vers lequel on partait. En guerre contre Babylone, eh bien, on fait des petites figurines des Babyloniens, en terre cuite. Et puis, l'officier, le commandant de l'armée, prenait ces petites statues et les fracassait contre l'autel.